parlez de faire le baptême à Aize-sur-Mer. Si vous connaissez Aize, vous savez qu'il y a Aize, le village, en haut, tout en haut, et puis il y a Aize-sur-Mer, et qu'entre les deux, on peut faire une jolie balade. Peut-être une idée pour le jeudi prochain. Mais c'est là que j'ai découvert, à Aize-Village, que j'ai découvert ce qu'on appelait le Saint. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est qu'un coussin de belle-mère ici? Il y en a quelques-uns? En fait, un coussin de belle-mère, c'est un cactus. C'est un gros cactus qui a une forme arrondie, presque comme une forme de coussin. Seulement, il est dardé de piquant. Et c'est pas très gentil pour les belles-mères. Mais c'est comme ça qu'ils s'appellent. Et c'est vrai que quand on voit ça, ça fait sourire, parce que les pauvres belles-mères ont souvent la réputation d'être difficiles auprès des époux de leurs enfants. Pourquoi est-ce que je parle de coussin de belle-mère? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on arrive à un verset qu'on a appelé un doux coussin pour cœur brisé. Donc là, on quitte le domaine de l'humour ou de l'ironie pour entrer dans le domaine de la reconnaissance. D'abord, est-ce que quelqu'un a besoin de traduction? Ça va? Rob et Christine? Do you need some translation? Ça va? D'accord. Excusez-moi. Parce qu'en anglais, c'était « a soft pillow for the broken-hearted », un doux coussin pour ceux qui ont le cœur brisé. Et ce verset, c'est ce verset 28 qui lit « Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ça, c'est un verset que vous devez mettre dans votre esprit. Ça fait partie de votre kit de chrétien. Toute la Bible doit être dans votre cœur, toute la parole, mais il y a des vérités fondamentales dans tes lettres, afin qu'on croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le salut en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient à ce qu'il a fait sur la croix. Le fait que nous sommes tous loin de sa gloire, que le salaire du péché, c'est la mort. On en trouve beaucoup d'ailleurs dans Romains, c'est pour ça que l'étude de Romains est tellement importante. Mais savoir que toutes les choses qui peuvent vous arriver dans votre vie, si vous aimez Dieu et qu'il vous a donc appelé selon son plan, son dessein, alors vous pouvez vous relaxer. Et tout va se dérouler selon son bon plan. Toutes choses vont coopérer au bien de vous-même. L'expression « nous savons », c'est une connaissance. En grec, il y a deux mots que nous traduisons « savoir » ou « connaître ». Le mot, ce qu'on rencontre souvent, c'est le mot « qui veut dire avoir une connaissance intellectuelle. Je sais parce que j'ai compris ou j'ai étudié. Ici, le mot, c'est un mot qui veut dire j'ai une connaissance expérimentale. Ce n'est pas quelque chose du domaine de l'intellect ou de la connaissance qu'on acquiert dans les livres. C'est que depuis que je suis chrétien, j'ai cette confiance en moi. Et quelqu'un disait, c'est « j'ai pas besoin qu'on m'explique le goût du miel ». Je connais. On ne peut pas expliquer le goût du miel. Il faut le goûter. Le psalmiste dit, venez à Dieu, goûtez Dieu et vous verrez combien il est bon. Cette vérité fondamentale que vous devez vraiment avoir toujours à l'esprit, vos mal sur... Toute chose coopère à votre bien. Parce que si vous n'avez déjà expérimenté, vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir des événements dans votre vie qui ne vont pas être ceux que vous souhaitez. Il va y avoir des événements contraires à ce que vous aimeriez voir arriver dans votre vie. Et lorsque vous ne savez pas pourquoi un tel événement arrive dans votre vie, il est vital, il est fondamental que vous puissiez vous rabattre sur ce que vous savez. Et vous devez savoir que Dieu vous aime, qu'il vous a déclaré acceptable en Jésus-Christ, qu'il est souverain, c'est-à-dire qu'il reste maître des événements. Ce n'est pas comme soudain il est parti en vacances, en RTT, ou qu'il a fini sa semaine de 35 heures, et que soudain le diable peut se déchaîner sans qu'il soit au courant de ce qui se passe. Maintenant, vous pouvez dire, je sais que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le pasteur Chuck Smith dit que trop souvent, lorsque nous avons des épreuves, le danger, c'est que nous avons tendance à rejeter ce que nous savons et pour nous perdre dans ce que nous ne comprenons pas, dans ce que nous ne savons pas. Je sais que Dieu m'aime, qu'il a un bon plan pour ma vie, mais cette épreuve que je traverse, je ne la comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Et ma tendance, c'est à dire, en fait, Dieu n'est pas là, c'est à tout rejeter, même les choses que je savais. Et il nous dit, et je vous dis, et je me dis, n'abandonnons jamais ce que nous savons pour ce que nous ne savons pas. Le verset 1 que nous venons de lire, c'est un peu comme la garantie que Dieu fait une œuvre. Nous, pasteur Chuck dit aussi, souvent nous voyons qu'un morceau du puzzle. Et j'écoutais un message où il disait qu'en fait, il a une nature un peu compulsive et que quand il commence un puzzle, il a du mal à s'arrêter. Et j'aimais ça parce que j'ai exactement le même problème. Je peux passer des heures, perdre du sommeil sur un puzzle. Il y a toujours ces morceaux de puzzle qu'on pense. Alors là, je vois bien l'image. C'est là qui ne figure pas dans l'image. On est perdu. Mais vers la fin, c'est drôle comment ça va vite le puzzle. Les 10 dernières pièces, quand on les trouve, même ces pièces qu'on pensait n'appartenaient pas au puzzle, soudain on voit qu'en fait, ah oui, c'était juste un petit morceau de rouge à côté du vert là, c'était pas toute l'image là. Et pof, tout tombe en place. Et bien souvent, nous on n'a pas l'image d'ensemble. On est là, le nez devant dans le guidon, comme on dit en français. The nose to the grinding stone. Et on ne voit pas ce qui nous arrive. Mais il est bon de savoir que Dieu, lui, il fait que toutes choses, même les revers de fortune, même les difficultés, elles vont coopérer à former l'image, le plan qu'il a pour nous. Ce verset, c'est souvent l'un des plus déformés de la Bible. On a souvent tendance à le citer en disant « Nous savons que la plupart des choses concourent au bien. » Ou de dire « Nous savons que certaines choses concourent au bien. » Mais le mot qui est traduit « toutes » en français, c'est le mot grec qui veut dire « toutes », c'est-à-dire absolument « toutes choses ». Il n'y a pas des choses sacrées et des choses profanes, des choses top sacrées et des choses top profanes. Non, toutes choses, Dieu peut les utiliser. Mais, une chose à faire aussi, lorsqu'on utilise ce verset, c'est de se rappeler qu'il y a une condition. Pas de tout le monde, de ce qui est, de ceux qui sont appelés selon son dessein, son plan. Alors la question, bien sûr, c'est de se dire, est-ce que moi, j'aime Dieu ? Et là, souvent, on a de la difficulté parce qu'on se dit qu'aimer Dieu, c'est sans doute avoir toujours ces émotions très fortes. qui nous pousse à prier sans arrêt, à nous relever au milieu de la nuit pour passer 2 heures dans la prière, à être toujours actif au niveau religieux, à toujours avoir un paquet de tracts à donner, à distribuer, à mettre dans les légumes au marché pour que d'autres les trouvent. Passer tout son temps à chanter des cantiques, jamais écouter un chant païen, entre guillemets. Aimer Dieu, ça veut peut-être dire que lorsque je parle de lui ou que je pense à lui, soudain j'ai le cœur plein de chaleur. Alors il est vrai que toutes ces choses peuvent accompagner l'amour de Dieu. Mais Jésus lui-même nous a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire qu'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Je peux... Jésus déclarait, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Un peu plus loin, 14:23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. C'est la clé. Dans ma vie, je n'obéis pas à Dieu systématiquement. Ça ne veut pas dire que j'obéisse parfaitement. Mais lorsque je désobéis, j'éprouve du remords, de l'inconfort, je demande pardon à Dieu. Mais s'il n'y a pas dans mon cœur le désir d'obéir à Dieu, alors je peux mettre en cause mon amour véritable pour Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph et de ses frères? On a dit dans l'étude sur la Bible qu'il n'y a que 2 personnages, à part Jésus, dans la Bible, duquel on ne dit que du bien. Et ces 2 personnages, c'est le prophète Daniel et c'est Joseph, le patriarche Joseph, le fils de Jacob, qui avait été envoyé, plutôt attrapé par ses frères, qui étaient jaloux de ses prophéties, jaloux de l'amour particulier que son père lui vouait, qu'il avait mis en vente. Ils avaient d'abord voulu le tuer, ils avaient pris sa tunique multicolore, ça c'est la traduction traditionnelle, et ils voulaient le tuer, ils avaient mis du sang sur cette tunique pour la donner à son père Jacob et lui dire qu'en fait son fils était mort, mangé par les bêtes. Mais en fait, il l'avait vendu à une caravane qu'il avait emmenée en esclavage, qu'il avait vendu à un haut fonctionnaire du Pharaon. Ce haut fonctionnaire avait une femme qui avait compromis Joseph, qui s'était retrouvée en prison injustement. Et à chaque fois, Joseph continuait à servir Dieu, à le remercier dans toutes ces circonstances. Il ne comprenait sans doute pas ce qui lui arrivait, mais il se reposait sur ce qu'il savait de Dieu. Que Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu l'aimait, et il continuait à servir Dieu de tout son cœur. Le résultat, c'est que à la cour du Pharaon, il a grandi dans l'estime des responsables, et il s'est retrouvé en fait premier ministre du gouvernement égyptien. Il a pu interpréter la prophétie des vaches maigres et des vaches grâce. Il a conseillé au Pharaon d'accumuler des récoltes pendant les années de bonnes récoltes. On dit maintenant dans le langage courant des vaches grasses et les vaches maigres. Ça vient de cette histoire, encore une fois. Et puis, lorsque la famine a atteint son pays, Israël, son père a envoyé ses frères pour chercher de la nourriture en Égypte. Et en fait, grâce à son destin, à sa destinée, à sa vie tellement douloureuse, il a été à même de sauver sa famille. Parce qu'il y avait ils avaient du blé, des récoltes, à la suite de quoi toute la famille est descendue en Égypte. C'est là qu'ils se sont multipliés avant que Moïse soit chargé par Dieu de les délivrer, une fois qu'ils sont tombés dans l'esclavage sous un autre pharaon qui ne se connaissait pas Joseph, est-il dit. Et un des plus beaux versets de la Bible encore, dans la Genèse 50-20, regardons-le ensemble parce que c'est un verset clé qui rejoint tout à fait le verset 28. On sait que lorsque ses frères découvrent qui est ce ministre du Pharaon, ce premier ministre, ils craignent beaucoup pour leur vie, parce qu'ils savent qu'il est puissant et qu'ils l'ont fait, ils lui ont fait beaucoup de mal. Verset 16 du chapitre 50, ses frères firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. » Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, je t'en prie, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura quand on lui parla ainsi. Ses frères vinrent eux-mêmes tomber à ses pieds et dire, « Nous voici tes serviteurs. » Ils se mettent devant lui, prêts à mourir. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu ?» Ça nous rappelle que c'est Dieu qui prend revanche. Ce n'est pas à nous de juger et de prendre notre revanche. Et il explique, verset 20, « Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Il leur dit de ne pas avoir crainte, « Je vais pourvoir à tous vos besoins, à ceux de vos enfants. » Il les consola en parlant à leur cœur. Mais encore une fois, Dieu a transformé en bien ce que d'autres avaient pensé faire en mal. Un autre passage nous dit qu'il n'existe pas d'armes qui étaient faites pour nous faire du mal, que Dieu laisse nous faire du mal. L'autre vérité que nous découvrons, c'est que si nous aimons Dieu, il nous a appelés selon son dessein, selon son plan. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour notre vie. Et la meilleure chose que vous puissiez faire de votre vie, c'est de trouver ce plan et d'entrer dans ce plan. C'est là qu'il va y avoir pas nécessairement la sécurité financière, la sécurité physique, la sécurité de réputation, mais c'est là qu'il va y avoir l'accomplissement du plan de Dieu, et il n'y a rien qui ne satisfasse plus votre vie, votre cœur, votre destinée, que de savoir que vous faites la volonté de Dieu, que vous marchez dans son plan. Certes, on n'a jamais une marche parfaite, on tombe, on chute, on pêche, mais de savoir que là où vous êtes, c'est vous avez cherché à faire la volonté de Dieu et non pas simplement votre volonté. Un autre verset dont nous avons parlé en étudiant la Bible en 24 heures, Jérémie 29, 11. C'était une parole destinée au peuple en exil, mais c'est aussi une parole qui s'adresse, que Dieu adresse à son peuple, que nous sommes aussi. Il leur disait, « Je connais, moi, les desseins, les plans que je forme à votre sujet, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Ça, c'est Jérémie 29, 11. Dieu a un plan pour toute notre vie, et ce plan, bien sûr, il peut se traduire par une vocation d'activité. Peut-être que vous allez être dans le plan de Dieu en étant instituteur, professeur, en étant banquier, en étant missionnaire, en étant pasteur, en étant peintre, en étant mère de famille qui élève ses enfants dans la crainte du Seigneur. Peu importe. Parce que, en fait, je crois que le plan du Seigneur, il va bien au-delà du plan terrestre qu'il a pour nous. Il a un plan, j'en suis convaincu, ici-bas, mais son dessein pour notre vie, nous allons le voir par la suite, le plan de Dieu, c'est de nous préparer pour l'éternité. Encore une fois, il est vital dans notre démarche de chrétien d'avoir une perspective éternelle. La vie est courte, le temps passe très vite. Plus on prend de l'âge et plus ça semble s'accélérer. C'est du moins mon expérience. Je ne sais pas si tout le monde a ce sentiment. Quand on est enfant, les vacances d'été, ça semble comme une période illimitée. Maintenant, les mois passent à la vitesse grand V. On est déjà au mois de mai. Il semble qu'il y a quelques jours, on était au mois d'avril, au mois de janvier. La vie sur Terre représente rien du tout en regard du temps de Dieu, du temps de l'éternité. Et Dieu veut nous préparer. Et c'est ce que Paul continue de nous expliquer. Nous allons lire en fait les versets 29 à 38. Et ça, c'est un peu comme un hymne de reconnaissance. Nous avons fait une marche d'approche en étudiant le début de Romains. Là, nous commençons à monter vers les sommets. Et là, nous allons arriver au sommet de l'Everest. Restez bien encordés, parce qu'une chute pourrait être fatale. Mais on arrive vraiment à des révélations sublimes de ce que Dieu a pour nous. Lisons ensemble à partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour la tribulation, l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Et nous pouvons tous dire Amen. Amen. Les versets 29 et 30, notons bien qui c'est qui fait tout le travail. C'est « Il a connu d'avance, il les a prédestinés, il est le premier-né, c'est il, tout est le travail de Dieu. Il s'agit du travail de Dieu. » Et nous voyons là cinq étapes qui s'étendent de l'éternité passée à l'éternité future. Et tout d'abord, il est dit qu'il nous a connus d'avance. Dans un autre passage de Paul, Éphésiens 1, 4, il est dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Connaître à l'avance, c'est une préconnaissance. Et là, il faut réaliser encore une fois qui est Dieu. J'ai apprécié l'avènement de l'ordinateur parce que l'ordinateur nous ouvre l'esprit pour nous montrer que nos capacités intellectuelles, elles sont toutes petites. Même des appareils qui sont fabriqués par nous peuvent être intellectuellement, au niveau de la vitesse de calcul, de la vitesse de réflexion, de rassemblement d'informations, infiniment plus puissants que nous. On dit que pour la la loterie génétique, lorsque un spermatozoïde rencontre un œuf, un ovule, la combinaison, tant il y a eu, il savait que Thierry aurait les yeux bruns avant la fondation du monde. Dieu nous connaissait déjà. La puissance intellectuelle, la puissance de logique, de connaissance de Dieu est infinie. Dieu est parfait, il ne change pas, il n'a rien à apprendre. Lorsque nous lui donnons nous lui expliquons dans nos prières ce qui s'est passé dans la journée, il est content de nous entendre parler, mais il le savait déjà. Il le savait déjà de toute éternité. On a souvent du mal avec ces notions de connaissance à l'avance ou de prédestination dont il est question au verset suivant, parce qu'on ajoute des choses qui ne sont pas dans la Bible. Et souvent, on pense que, en fait, Dieu cause notre foi et que il me prédestine à être sauvé, à venir à lui, et puis qu'il y en a d'autres qui prédestinent, à ne pas le connaître, à être perdu. C'est pas du tout le cas. Encore une fois, on comprend ces notions de prédestination ou de préconnaissance lorsqu'on réalise que Dieu vit en dehors du temps. Nous sommes pris, on en parlait tout à l'heure, dans ce continuum du temps. On a ce concept dont nous avons du mal à nous défaire. Il a fallu le génie d'un esprit comme celui d'Albert Einstein pour faire éclater un peu la notion que nous avons du temps comme une ligne qui part de la gauche, qui va vers la droite et qui est infinie. Einstein, logiquement, a montré qu'en fait le temps était une dimension, que ce n'était pas une valeur absolue. Dieu, lui, il est en dehors du temps. Nous voyons les choses se dérouler comme un film, une image à la fois. Dieu, c'est comme si on débobine, on déroule toute la bobine, il voit tout. Lorsqu'on a ce concept de Dieu qui est en dehors du temps, à ce moment-là, ces notions de prédestination, de préconnaissance sont beaucoup moins difficiles à saisir. Cette préconnaissance, c'est pas ce qui va décider de votre foi. Mais Dieu voit à l'avance que nous allons venir à lui ou pas. Il est dit, ce qu'il a connu, ce sont de ceux dont il connaissait d'avance la foi et l'amour. 1 Corinthiens 8, 3, il est dit, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Il le sait déjà à l'avance. Prédestiné, ça veut dire désigné à l'avance. Ça ne veut pas dire que Dieu prédestine des gens à l'enfer. Il ne s'agit pas d'une prédestination à la foi, mais une prédestination à la gloire fondée sur le fait qu'il a vu avant, il a prévu. Voire avant, il a eu cette prévision de votre foi. Et cette foi, c'est votre adhésion de libre d'homme à ce que Dieu vous offre. Le Seigneur, lui, son désir, c'est d'amener toute personne à la repentance. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne retarde pas sa promesse, son accomplissement, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers nous parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Le désir de Dieu, par amour de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est que tous viennent à le connaître et à se repentir, à marcher avec lui. Mais encore une fois, Dieu respecte notre libre arbitre. Pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait liberté de rejeter cet amour. On ne peut pas forcer les gens à vous aimer. Des fois, on aimerait bien, mais ce n'est pas... L'homme est libre de rejeter Dieu. Et il y a un auteur chrétien qui parlait d'un jour, lorsque nous arriverons au ciel, nous verrons ce grand portail Vous savez, par exemple, au chalet des enfants à la montagne, il y a un grand portail et dessus, il y a une inscription qui dit « Les enfants à la montagne ». Là, cet auteur, qui s'appelle Henry Ironside, dit que d'un côté, de l'extérieur, quand on arrivera, il sera marqué « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Parce que c'est ce que nous allons voir dans Romains 10, 13. Quiconque invoque le Seigneur, le nom du Seigneur est sauvé. Si vous dites Seigneur, je veux être sauvé par le nom de Jésus, par ce qu'il a fait pour moi à la croix, vous êtes sauvé. Mais, une fois qu'on sera rentré à l'intérieur, et qu'on retournera pour voir l'autre côté du panneau, à ce moment-là, au-dessus du portail, on lira le verset de Jean 15, 16. Jean 15, 16 qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » Alors bien sûr, c'est difficile pour nous de réconcilier ces choses. Et le célèbre évangéliste D.L. Moody, du début du siècle aux États-Unis, disait « En fait, c'est très très simple. Les élus, ceux qui vont avoir la vie éternelle avec Dieu, ce sont... les quiconques invoquent. Et puis les non-élus, ceux qui ne vont pas être avec Dieu, ce sera les quiconques n'invoquent pas. Et si quelque part vous vous dites c'est pas juste, Dieu a causé certains, c'est très simple, si vous avez envie d'être avec lui, invoquez-le. Alors, ça c'est une... j'aimerais faire une petite parenthèse, parce que souvent nous essayons de réduire la logique de Dieu à notre logique. Il y a souvent, par exemple, des éléments qui semblent contradictoires dans la Bible. Il y a d'une part la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui décide ce qu'il veut. Nous avons la chance d'avoir un Dieu qui est rempli d'amour et qui, il pourrait choisir de faire des choses mauvaises, mais parce qu'il est guidé par l'amour, il est libre de faire des bonnes choses. On parle souvent de la souveraineté de Dieu et à son libre arbitre, donc l'homme a sa... quelle est la part de responsabilité de l'homme dans le salut? Est-ce que c'est lui qui va décider? Ou est-ce que c'est Dieu qui a déjà mis dans le cœur de l'homme le désir? Ou est-ce qu'il a vu comment l'homme allait répondre? Et souvent, on peut se perdre dans des questions de théologie. Tout spécialement, je vais vous dire, les pires, ce sont les jeunes étudiants en théologie, en école biblique. Ils passent des nuits entières à diviser ces choses. Je vois des sourires, je sais qu'il y en a qui ont discuté ces choses-là. La sagesse, c'était Spurgeon encore une fois qui nous disait « Gardons l'équilibre entre ces deux vérités ». Et il disait « Lorsque deux vérités sont révélées par inspiration divine, c'est-à-dire qu'on les trouve dans la Bible, elles doivent être adoptées, on doit les croire de la même façon. Même si on n'arrive pas avoir leur compatibilité, le fait que l'homme ait son libre arbitre et que le fait que l'homme soit souverain, que Dieu soit souverain. Un autre auteur, Tozer, pour expliquer cette tension entre le libre arbitre de l'homme et la souveraineté de Dieu, prenez l'exemple d'un paquebot transatlantique qui partait du Havre et qui allait à New York. Et l'horaire de départ, la date, ont été fixés par la compagnie. On sait à quelle heure, quel jour le bateau va partir du Havre et à quelle heure, quel jour il va arriver à New York. Si tout se passe bien en route, bien sûr. Par contre, entre-temps, dans l'intervalle, pendant la traversée, les passagers sont libres de faire ce qu'ils veulent sur le bateau. Ils ont leur libre arbitre, mais il y a la souveraineté du paquebot transatlantique. Et d'une façon générale, dans la Bible, on trouve des fois des antinomies. Antinomie, ça veut dire anti-loi, des choses qu'on ne peut pas réconcilier. Des antinomies, c'est une paire d'affirmations qui semblent valides lorsqu'on les considère séparément, mais qui semblent se contredire lorsqu'on les rassemble, lorsqu'on les prend ensemble. La nature divine et la nature humaine de Jésus-Christ. on a du mal dans notre intellect à dire Dieu était parfaitement homme et Dieu était et Jésus était parfaitement homme et Jésus était parfaitement Dieu. Et pourtant, c'est ce que nous apprend la Bible. Et ce même auteur, W. Tozer, disait « Nous devons abandonner notre passion pour une compatibilité systématique, reconnaître l'existence du mystère et laisser Dieu être plus sage que les hommes. » Si c'est révélé dans la parole de Dieu, nous devons y croire, nous pouvons y croire avec assurance. Maintenant, s'il y a des choses qu'on a du mal à réconcilier, soyons comme le prophète David qui disait « Je suis comme un enfant sevré, je ne me préoccupe pas de choses qui me dépassent. » Les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies, son intelligence est au-dessus de notre intelligence. Nous pouvons nous poser les questions, nous pouvons rechercher, en parler toute la nuit si ça nous chante, mais de grâce que nous retombions sur des choses que nous savons. Sachions bien les fondamentales, les vérités fondamentales de notre foi. Et donc, cette histoire de la prédestination, encore une fois, c'est jamais une prédestination à partir en enfer. Prédestination, ça veut dire qu'il a délimité, le mot, c'est le mot pro-horizo. C'est comme il a mis une limite, un horizon, à l'avance, pour savoir que il voyait déjà que nous l'aimerions. Et ce à quoi il nous prédestine, verset 29, c'est à être semblable à l'image du Fils. Les choses coopèrent au bien, ça veut dire que toutes ces choses vont concourir à nous faire ressembler à Jésus-Christ. En grec, il y a deux mots qu'on traduit par image. Il y a le mot icon, qu'on connaît maintenant sur l'ordinateur ou sur les dessins dans les églises russes orthodoxes. Et cette genre d'image, elle implique toujours que l'image est dérivée de la source. Par exemple, la réflexion du soleil dans l'eau, c'est une icône. Ça vient de quelque chose qui existe. Il y a un autre mot qui est traduit par image. Et là, il n'y a aucune nécessité de lien étroit. On peut, par exemple, se trouver ressembler à une autre personne avec qui on n'a aucune relation de parenté. J'ai vu quelqu'un qui te ressemble, mais ce n'est pas du tout un parent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier mot qui est utilisé. L'image, ça va être une conformité à Jésus-Christ parce qu'il est en nous et que nous sommes en lui. Colossiens 3:3, Paul dit « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Le verset, bien sûr, le plus célèbre, c'est un verset aussi à mettre dans votre kit, 1 Jean 3:2. 1 Jean 3:2 dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. » Parce que nous le verrons tel qu'il est. Paul disait, ça c'est 1 Jean 3:2. Paul disait que pour l'instant on voit à travers un miroir. Et les miroirs à l'époque c'était des miroirs pas très clairs. On voit de manière un peu floue. Le chrétien que je suis c'est qu'une très pâle image du chrétien que je serai. Parce que un jour lorsqu'il reviendra, lorsque nous serons en sa présence, nous le verrons tel qu'il est. Et cette présence sera si forte qu'il va y avoir une réflexion en moi de qui il est. Et nous serons semblables à lui. Il y a donc dans cette description, lorsqu'on relit les versets 29 et 30, il les a connus d'avance, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. On voit qu'en fait, Dieu, Jésus, n'en a pas perdu un seul. Il n'est pas dit parmi ceux qu'il a connus d'avance, il y en a certains qui sont allés à l'étape suivante, et puis il y en a d'autres qui vont aller jusqu'à la glorification. Donc tous ceux avec qui il commence un travail, il va il va l'achever ce travail. Et ça aussi, ça doit être un encouragement, parce que des fois on pense avoir commencé avec Dieu et on se dit, c'est plus ça. J'ai moins de zèle, j'ai moins de désir de lire la parole, je n'arrive plus à prier, je me sens loin de Dieu. Peut-être que c'était qu'un... Non, il nous dit qu'il n'en a pas perdu un seul dans Jean 17. Et donc d'abord, pour accomplir ce dessein de nous rendre semblables à Jésus-Christ, on a dit que le but ultime de Dieu, c'était de nous préparer à l'éternité. Pour vivre dans l'éternité, il faut qu'on abandonne notre costume d'homme, de femme, et qu'on se revête du scaphandre autonome qui nous permet de vivre en la présence de Dieu. Et la seule ressemblance qui puisse nous permettre d'être en la présence de Dieu, c'est d'être parfait comme Jésus. Soyez parfait comme votre Père est parfait. Il y a donc d'abord l'appel. L'appel, il vient par la prédication de l'Évangile. C'est pour ça que dimanche après dimanche, nous sommes dans la parole, nous voulons annoncer et que cette parole puisse toucher votre cœur. L'Esprit Saint est à l'œuvre pour vous convaincre de péché, pour attendrir votre cœur, pour vous montrer que cette parole, elle est la vérité et pour vous aider à aller jusqu'à recevoir le Seigneur comme votre maître. Il y a d'abord l'appel, ensuite il y a la justification dont nous avons parlé beaucoup au début de l'étude de Romains. Encore une fois, la justification, c'est simplement le fait que Dieu vous considère comme juste. Vous qui êtes pécheur, moi qui suis pécheur, il me considère comme juste, comme si j'avais jamais péché, et il me donne la vie. La part de l'homme, c'est de répondre par la foi, croire à ces vérités qui sont annoncées dans la Bible, et à marcher dans la sainteté. Encore une fois, sans la sainteté, nous ne pouvons pas connaître Dieu, il est dit dans Hébreu. Nous devons faire tous nos efforts, et encore une fois, là, c'est pas nos efforts, nos bonnes résolutions, c'est de nous mettre en dépendance de Dieu, de sa grâce, pour nous aider à marcher dans la sainteté, dans la ressemblance à son Fils, de plus en plus. Et puis, il y a la glorification. La glorification, on avait dit au départ que le salut, il y avait trois aspects. Il y avait la justification, la sanctification, la glorification. La justification, c'est d'être déclaré juste par Dieu. La sanctification, c'est d'être rendu, entre guillemets, juste par Dieu. C'est de plus en plus, nous nous comportons de façon qui plaît à Dieu. Et puis, il y a la glorification où nous partageons sa gloire dans l'éternité. Et on avait essayé de faire une petite comparaison, on avait dit la justification, ça enlève la punition du péché. Le péché, c'est la mort. Si je viens à Dieu, je suis justifié, déclaré juste, je ne meurs plus, il me donne la vie éternelle. La sanctification, c'était la fin de la puissance du péché dans ma vie. Je peux encore pécher, mais c'est pas parce que le péché est irrésistible, c'est parce que c'est moi qui ai décidé de pécher. Alors qu'avant, je n'avais pas le choix, maintenant j'ai le choix de renoncer. Et la glorification, une autre façon de voir cet aspect du salut en relation avec le péché, ce sera l'enlèvement de la présence du péché. Il y a la punition, la puissance et la présence. Et lorsque le salut sera complètement effectué, le péché ne sera même plus un souvenir. Nous vivrons en la présence de Dieu, nous serons semblables à Jésus. Et nous serons prêts à vivre pour l'éternité en sa présence. Paul continue, il aimait bien, vous savez, on l'a souvent dit, il aimait bien débattre, il aimait bien parler, partager ses convictions. Et une bonne façon de faire, c'est de poser des questions, d'anticiper les questions que se posent les gens. Et si vous parlez avec vos amis, vos parents, n'hésitez pas à leur poser des questions. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que tu as des réponses? Le questionnement est souvent la meilleure façon de faire progresser les gens. L'affirmation est rejetée comme étant dogmatique et esprit étroit, endoctriné, vous êtes dans une secte, vous ne connaissez rien à la vie. Questionnez les gens, questionnez-les. Ou est-ce que c'est tout ce qu'il y a dans la vie? Tu vas prendre ta retraite maintenant à 70 ans? Et tu vas clapoter deux ans plus tard. C'est tout ce qu'il y a dans la vie. Poser des questions. C'est les questions qui font bouger les gens. Paul dit, que dirons-nous donc à ce sujet, verset 31, si, c'est-à-dire dans ce sens-là, c'est en fait, ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité, c'est puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce message, je l'intitule aujourd'hui, Dieu est pour nous. Est-ce que vous savez que Dieu est pour vous? Est-ce que Dieu ne vous regarde pas comme un ennemi qui veut détruire, mais Dieu veut qu'il soit pas de Dieu? Chaque fois que je vois une croix encore dans nos pays occidentaux, c'est un petit rappel, Dieu est mort pour moi. S'il n'y avait eu que moi à sauver, il l'aurait fait de la même façon. Galates 2:20, Dieu est mort pour moi. Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui va être contre moi? Bien sûr, la réponse est que personne. Peut-être le diable, bien sûr, va essayer d'être contre moi. Moi-même, je vais être des fois contre moi. Je vais vivre de façon qui me détruit. Je ne vais pas obéir aux commandements de Dieu. Mais quand on a Dieu pour défenseur, c'est avoir gagné d'avance tous les procès. Quelle que soit la virulence des accusateurs. Et on sait que le diable, Satan, c'est l'adversaire. Diable, c'est accusateur. Il est l'accusateur des frères, il est dit dans l'Apocalypse 12:10. Cette question et cette réponse implicite, ça élimine la peur de l'opposition. Verset 32, il dit, « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par la grâce ?» La réponse est que, par sa grâce, Dieu nous a donné toute chose. Il nous a donné la chose la plus précieuse, la vie de son fils. Il a été prêt à nous le donner. Et s'il nous a donné ce qu'il y avait de plus cher, comment peut-on douter qu'il ne va pas nous donner aussi un travail, il ne va pas nous donner aussi de l'aide dans notre vie quotidienne? Il y avait une histoire à l'époque romaine où un maître était très déçu un riche romain était très déçu de son fils. Il avait décidé de le déshériter au profit de son esclave qu'il aimait beaucoup et qu'il respectait beaucoup pour la façon dont il gérait toute sa maison. L'esclave qui s'appelait Marcellus. Et donc, le jour de l'héritage, le père avait annoncé ça à son fils et à Marcellus, il avait dit, voilà, devant témoin, je donne toute ma propriété, tous mes biens, toutes mes affaires à Marcellus, mon esclave. Mais pour te montrer que je ne suis pas un père indigne, je te permets de choisir une chose dans mon héritage, une seule chose. Et à ce moment-là, on a vu le visage du fils qui réfléchissait, et soudain, un grand sourire s'est fait sur son visage. Il a dit, oui, je vais prendre Marcellus. On rit, mais en fait, c'est ce qu'on a avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a toute chose. Dieu a tout donné à son Fils. Si nous prenons Jésus-Christ, nous sommes héritiers de toute chose. Comment est-ce qu'on peut douter de ce que Dieu veut tout nous donner alors qu'il l'a déjà fait? Cette question, elle élimine la peur de manquer de quoi que ce soit. Verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. » Encore une fois, on pourrait penser que Satan essaye, mais la croix lui a fermé la bouche. Il s'est fait écraser la tête, selon le Genèse 3:15. La loi, elle ne peut rien nous dire parce que ses exigences ont été satisfaites à la croix. Le péché a été puni à la croix. Notre conscience, qui des fois nous ennuie, elle aussi, elle peut trouver la paix dans la croix. Le péché a été puni, je suis au bénéfice de la grâce de Dieu. Les personnes à qui nous avons fait du mal aussi n'ont plus rien à dire. Parce que Dieu qui était le premier offensé, il m'a pardonné. Et sa grâce me pousse à demander pardon à ceux auxquels j'ai fait du mal et à essayer de réparer si c'est possible. Donc ça, cette question, ça élimine la peur de l'accusation. Qui les condamnera? Verset 34, le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il ne donne pas une réponse directe, sous-entendu certainement pas Jésus-Christ, lui qui a tout fait pour que nous soyons pardonnés, acceptés. Non seulement ça, mais maintenant qu'il est, ressuscité, son sacrifice a été accepté, il est à la droite de Dieu et il intercède pour moi. Si vous n'avez pas prié ce matin, sachez que quelqu'un l'a fait, peut-être certains autres, mais surtout Jésus. Jésus intercède pour nous sans arrêt devant le trône de Dieu, alors que le diable essaye de nous accuser. Ça élimine la peur de la condamnation. Et finalement, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Alors il prend des hypothèses, est-ce que les épreuves terribles vont nous séparer de cet amour, ou la peur que nous allons ressentir, l'angoisse, ou bien les persécutions, les gens qui vont s'acharner contre nous, la faim, le manque de nourriture, le manque d'habits, de vêtements, de logements, le dénuement, le péril, la peur d'un mal physique, l'épée, même des menaces physiques. Et la réponse sous-entendue, c'est aucune de ces choses ne peut nous séparer. Ça élimine la peur de la séparation. Paul justifie encore une fois ses affirmations par la parole de Dieu. Il cite le psaume 44, 23. À cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous regarde comme des brebis qu'on emmène à la boucherie. C'est parce que nous sommes chrétiens, souvent, que nous sommes dans la difficulté. Et là, nous avons le choix de le faire comme un agneau, docilement, ou comme un cochon, en grognant, en criant. Il paraît que j'ai jamais assisté à l'exécution des cochons, mais il paraît que c'est très... très horrible parce qu'ils font des bruits terribles alors que les agneaux, eux, se laissent mettre à mort. Et Jésus est l'agneau de Dieu qui est mort sans dire une parole de colère. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On est des hypernikaïa. On conquiert par-dessus. On est des super conquérants, ça veut dire. Et un auteur parlait d'une sainte arrogance de victoire par la puissance de Jésus-Christ. On peut se réjouir de cette victoire par celui qui nous a aimés. Encore une fois, ce n'est pas par nos ressources, par nos capacités. Et puis là, on commence à arriver au sommet de l'Everest, là, verset 38. Et là, on peut planter notre fanion. On arrive aux deux plus beaux versets de la Bible. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Je suis persuadé, c'est-à-dire que je suis arrivé à un processus de persuasion à une conclusion parfaitement établie. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Et là, il essaye de partir dans toutes les directions. Il anticipe toutes les remarques qu'on va lui faire. Oui, mais si tu meurs, est-ce que tu ne vas pas être séparé? Non, la mort, que ce soit la mort, que ce soit ce qui nous arrive pendant la vie, ni les anges, ça peut être les anges déchus. Il invoque toutes les choses auxquelles il peut penser. Il parle des puissances, des êtres d'en haut, des êtres d'en bas. Certains voient dans la traduction, dans le mot grec, en fait, une notion de hauteur et de profondeur qui, en fait, fait référence à l'astrologie. Encore une fois, on vit dans un monde où les gens vont dire qu'on est un culte parce qu'on lit la Bible de Dieu, la parole de Dieu, mais eux vont aller lire leur horoscope chaque matin avant de prendre des décisions importantes. Le monde est à l'envers. Mais Paul dit même les horoscopes les plus terribles, même les tout ce que vous pouvez imaginer, désolé, mais ça fait pas le poids, ça peut pas vous séparer de l'amour de Christ, de Dieu en Christ Jésus. Tout est passé en revue et rien ne peut nous séparer de cet amour. Ça, c'est aussi quelque chose que vous devez avoir dans votre cœur. Parce que les épreuves vont venir, si elles ne sont pas venues, il y en aura. S'il y en a eu, il y en aura encore avant que ça revienne. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? Dans quel domaine êtes-vous inquiet? Est-ce que c'est la peur de perdre votre travail, la peur du chômage, la peur de la guerre, de l'inflation, du sida, de SARS, la pneumonie atypique? Est-ce que c'est la peur du cholestérol, la nicotine? Est-ce que vous avez peur de devenir SDF, de tomber malade, de perdre un être cher, d'avoir des choses terribles qui vous arrivent? Toutes ces choses, vous pouvez les donner à Dieu et dire: je sais que rien ne va me séparer de ton amour et que toi, tu vas accomplir ton projet dans ma vie. Tu vas me préparer à l'éternité en me rendant semblable à Jésus-Christ, à son image. Le Seigneur ne veut pas que nous vivions dans la peur. Il y a eu un très beau sermon qu'on avait écouté il y a quelques années. Le diable veut que nous vivions dans la maison de la peur. Dieu veut que nous vivions dans la maison de l'amour. Il a tout fait pour ça. La peur, l'amour efface la peur. La crainte de Dieu efface toute crainte. Si vous êtes à Dieu, vous n'avez rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Même si j'ai des épreuves ici-bas, quand on regarde à tout le plan, quand on regarde le puzzle qui se termine, on sait que ça va être merveilleux. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour cet amour immuable. Même si nos vies se brisent en mille morceaux, Seigneur, tu me tiens toujours dans le creux de ta main. Cette main qui ne tremble jamais, Seigneur, cette main qui est sûre. Rien ne peut te prendre au dépourvu. Satan utilise les circonstances humaines pour nous démoraliser, pour nous faire peur. Aide-nous à réaliser que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons. Mais Seigneur, nous voulons te remercier de nous donner cette assurance de paix éternelle avec toi. Du fait que pour chacun de ceux que tu as appelés, Seigneur, et si nous avons le moindre désir de venir à toi, Seigneur, nous pouvons t'invoquer et à ce moment-là, nous savons que tu nous avais choisis, que nous étions un quiconque invoqué. Prie que nous soyons tous des quiconque invoque, Seigneur, aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci pour cette assurance d'amour que tu nous donnes. Que rien ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur. Aide-nous à faire de ces vérités des bases de notre vie, quotidiennement. Que nous sachions ce que nous sachions. Que nous savons, Seigneur. Lorsque nous ne comprenons pas, Seigneur, aide-nous à revenir à ce que nous savons certainement. Tu nous aimes, tu as un bon plan pour notre vie et tu es souverain, Seigneur. Je te prie pour chaque personne ici dans l'inquiétude, dans la peur, dans la fatigue, dans la maladie. Seigneur, donne-leur cette assurance de ton amour en dépit de ces circonstances défavorables qui ne sont que passagères. Car encore une fois, ces souffrances, ces épreuves passagères amènent un poids éternel de gloire avec toi, Seigneur. soit glorifié, Seigneur. Et ce matin, si quelqu'un ne connaît pas encore le Seigneur, c'est le moment de venir à lui. Pendant que nous prions, que nous sommes encore dans le recueillement, si vous avez senti que le Seigneur veut que vous veniez à lui, vous pouvez prier en silence cette prière. Mon Père, je sais que je suis un pécheur, que j'ai besoin de ton pardon. Je regrette mes péchés passés. Je te demande de me pardonner.